Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 28 mars 2020. J'ai décidé de faire un petit enregistrement encore une fois pour vous tous, pour nous tous en réalité, parce que c'est un peu une thérapie de groupe actuellement que nous vivons, tous de façon différente, selon où est-ce que nous sommes, selon également nos aspirations du passé, parce que oui, déjà, ce qui était avant est déjà maintenant transformé littéralement. La vie que nous avions avant n'est plus et ne sera plus jamais la même. Et ce n'est pas pour être pessimiste, mais c'est pour être également réaliste. Alors, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices également qui écoutez cette capsule enregistrée en audio seulement aujourd'hui, pas de vidéo parce que j'aime pas me voir en vidéo. Je suis désolé. Non, j'aime pas. J'aime mieux l'enregistrement vocal uniquement. De toute façon, le transfert est encore plus facile sur Internet. J'ai décidé de procéder à ce petit enregistrement parce que hier soir, alors que j'étais en prière, avant d'aller au lit pour dormir, évidemment, mes prières étaient axées sur les gens que j'aime pour demander la grâce, la protection, la sécurité de l'Éternel envers tous les gens que j'aime, envers moi-même également, et puis tout ça. Mais le Seigneur est venu me chercher, est venu me toucher pendant cette prière pour me montrer des choses, et ça a comme tout bousculé l'ordre de mes pensées, et ces prières que Dieu connaît déjà, les prières que je fais habituellement pour les gens que j'aime, demander à Dieu de les protéger, de les garder, de veiller sur eux, de proclamer, exemple, le psaume 91 sur eux, ou encore des choses comme ça, dans l'état actuel des choses par rapport au virus qui circule dans le monde, eh bien, toutes ces prières ont été bousculées, tassées par cette vision, ce message que Dieu a commencé à mettre sur mon cœur. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, ok, d'accord. I'm your man, comme on dit. Je suis ton homme, je suis là. Et là, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a montré des choses. Et puis, lorsque je dis le Seigneur m'a parlé, je ne parle pas à la manière de plusieurs hommes de Dieu qui disent le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela. Non. C'est simplement comme des images qui sont venues dans mon cœur, dans mes pensées, auxquelles se sont ajoutées des versets bibliques, l'histoire biblique des choses, et tout ça est devenu en quelque sorte l'embryon d'un message que je n'ai même pas construit. Finalement, après quelques minutes de travail ce matin, je me suis dit, bon, ok, on va y aller par l'esprit et puis on verra ce que Dieu a à nous dire. Alors Seigneur Dieu Trois-Fois-Saint, je te remercie de bénir ma bouche, mes pensées, de vraiment utiliser mes lèvres comme ton instrument à toi pour diffuser ce message, pour proclamer le message que tu as adressé aux hommes, à ceux qui nous écoutent ce matin, et que ce ne soit pas non pas ma chair qui parle, mais que ce soit bien sûr ton esprit qui puisse livrer le message que tu as à donner aux gens ce matin. Et donne-moi également la sagesse, moi, en tant que traducteur de ta parole, de pouvoir parler avec une certaine sagesse, un certain calme et une certaine paix et cohérence également dans mes propos. Alors voici le message, je lui ai quand même donné un titre ce matin. Le message s'appelle tout simplement « Garder le focus sur Dieu ». Hier, pendant que je priais, j'ai commencé à m'imaginer un peu les gens qui sont actuellement en panique, les gens qui ne savent pas comment réagir, quoi faire, comment agir, quoi penser, les gens qui se sentent emprisonnés chez eux, alors que ce n'est pas le cas, c'est simplement pour leur propre sécurité et la sécurité des gens qu'ils aiment. J'ai commencé à penser à tout ça. J'ai commencé également à imaginer, à repenser aux paroles que je peux lire sur Internet, et maintenant, j'ai pris la décision, à partir d'hier soir, à partir de cette prière, de me délester d'Internet, de Facebook. Je vais continuer à aller lire, mais je ne vais pas m'occuper encore des messages de ceux qui diffusent de la désinformation des faussetés, des conneries pures sur des trucs d'oligarchie, d'état profond qui contrôle le monde, qui envoie des bombes bactériologiques virales sur le monde, qui ont créé des virus, qui veulent pucer les gens avec des vaccins, tout ça. Je vais arrêter de m'occuper de ces gens-là pour essayer de les rapporter dans la vérité. C'est inutile. Il y a des gens qui sont bouchés et bornés, il n'y a rien à faire. Mais il y a des gens, cependant, qui ont le mérite d'avoir développé une vision récemment, et cette vision commence à s'étendre vraiment de plus en plus sur Internet, et c'est celle que Dieu a un message pour nous au travers de cette pandémie actuelle. Et ce message, je le martèle, je le répète depuis longtemps, c'est de ouvrir les yeux et par l'esprit, par la sagesse que nous donne l'esprit, le discernement, de comprendre que les choses qui se passent actuellement sont des avertissements divins. Est-ce qu'il s'agit du dernier message de Dieu? Ça serait hasardeux pour moi de dire que c'est le dernier message de Dieu, mais c'est parmi les derniers, cependant, c'est certain. OK? Et puis, Dieu nous demande, en toute humilité, en tout amour, de regarder à Jésus, à lui, de revenir près de lui, de se détourner de nos mauvaises voies, de se repentir, de crier à lui, d'implorer sa grâce, son pardon, et de changer complètement la dynamique de notre vie actuelle. Notre vie actuelle se résumait à quoi, frères et sœurs en Christ? La vie actuelle des gens de... Là, je vais parler des chrétiens. Vous allez dire, je suis très, très dur envers les chrétiens, mais on se doit d'être dur envers nous-mêmes. On se doit de se juger nous-mêmes avant tout. Parce que l'apôtre Paul a dit comme ça, qu'ai-je à juger sur ceux du dehors, n'est-ce pas par ceux de l'intérieur que le jugement commence? Et lorsque je parle ainsi, ce n'est pas pour accuser, pour humilier les gens, mais c'est simplement pour que les gens puissent allumer sur l'état des choses. Alors, les chrétiens, j'ose à peine dire ça comme ça, mais je vais les appeler les chrétiens d'autrefois maintenant, même si en fait autrefois, c'est seulement il y a 10 jours déjà. Les chrétiens d'autrefois étaient des chrétiens maintenant qui, eux, avaient tout pour eux. Ils avaient pour la plupart de bons métiers, une belle situation, bénis financièrement, socialement, familialement parlant, dans lesquels il y avait de très beaux messages de Dieu et d'amour, de ceci, de cela. C'était vraiment joli. C'était vraiment mignon. Mais, outre ça, les chrétiens, pour beaucoup, dans les grands pays, et là, je ne parle pas ici d'Haïti, de l'Afrique, qui ont des démarches totalement différentes, une vision totalement différente envers Dieu. Une parenthèse comme ça, lorsque j'étais allé en Martinique en 1999 et que j'avais vu toute la pauvreté qui était là-bas, et c'est rien comparé à la pauvreté d'Haïti, j'étais revenu au Québec et lorsque j'ai témoigné de mon voyage, moi j'ai été bouleversé, j'avais dit, et les gens n'ont pas aimé ça dans mon assemblée, j'avais dit, finalement, ce que je réalise de mon voyage, c'est que quoi que nous, dans nos pays, nous avons la richesse financière, matérielle, monétaire, nous avons tout pour nous. Dans les pays pauvres, ils sont pauvres matériellement, financièrement, monétairement, à tous les niveaux. Eh bien, les pauvres, en réalité, c'est nous. Et c'est eux qui sont riches en esprit, qui sont riches dans leur relation avec Dieu. Dieu a aussi dit, heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Vous savez, donc, alors je reviens à ce que je disais. Oui, c'est nous les pauvres. Ceux qui sont dans les pays riches, ce sont nous les pauvres, spirituellement parlant, parce que, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font des efforts lorsqu'ils vont à l'église, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères, mais les églises, les assemblées, les chrétiens eux-mêmes, c'était un peu empêtrés dans leur confort, leur petit cocon d'assemblée, de rassemblement, de partage. Et c'était très bien comme ça. On faisait quelques petits ministères, aller porter des boîtes ici à gauche, à droite, à l'occasion pour aider quelques-uns. Mais c'était tout. Le reste, l'Église se limitait pratiquement qu'à ça. Alors qu'avec les événements actuels, l'Église est appelée à changer et c'est pour le mieux. Et ça, ce message, si on peut tirer un message positif de la crise actuelle, de ce virus du coronavirus, c'est que Dieu nous parle directement à nous, chrétiens. Il parle à l'homme en général, mais il parle aussi à nous, chrétiens, pour dire: Hé, réveillez-vous, c'est le temps de vous mettre en marche maintenant pour la gloire de l'Éternel, pour ma gloire à moi. Je lisais hier, lorsque Dieu, au travers l'histoire, a laissé le peuple d'Israël être persécuté par la maladie, par des guerres, par ceci, par cela, eh bien, Dieu parlait à son peuple à chaque fois et demandait à son peuple de revenir à lui, de s'humilier, de chercher sa face, de lui demander pardon. Que lui, ce qu'il désire le plus, c'est de se glorifier au travers ces événements. Alors Dieu cherche à se glorifier au travers cet événement. Et le COVID-19, actuellement le coronavirus, est une occasion pour lui de se glorifier au travers l'Église que nous sommes. Mais l'Église doit aussi changer sa façon d'être, son approche, de cesser d'être gras, engraissé, repu, de, comme dit entre autres, je me souviens plus dans quel livre qu'on retrouve ça. Est-ce encore le temps d'habiter vos maisons lambrissées alors que mon temple se détruit? C'est de délaisser justement nos belles maisons avec notre petit confort et de sortir pour aller reconstruire le temple de Dieu qui, en fait, ne demande que non pas à reconstruire le temple de Dieu par des briques, par de la planche, par des clous, des vis, du ciment, mais de reconstruire le temple de Dieu en allant vers les gens, OK? Pour les aider, les soutenir, les encourager, pour leur parler de Dieu, mais pas nécessairement arriver vis-à-vis quelqu'un pour le faire se sentir coupable en disant: Oui, mais regarde, toi, tu es un drogué, un alcoolique, regarde dans la Bible, c'est un péché, ceci, cela. Non, jamais, jamais. C'est de se présenter aux gens avec amour. La Bible dit: Aime ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est un reproche que Dieu fait à son Église. C'est que l'Église a délaissé son prochain au profit de son propre confort, de son propre plaisir à l'occasion. C'est dur à entendre, mais c'est une vérité et on doit la dire cette vérité, on doit l'entendre, on doit l'écouter. Et cette église est appelée à changer justement pour que nous-mêmes nous allions. Je l'ai prêché dans une vidéo hier, mais c'était pas cohérent, c'était pas. Mais là, l'Esprit de Dieu m'a vraiment mis des trucs sur le cœur aujourd'hui, et c'est plus facile simplement devant mon micro que devant une caméra. Et Dieu nous appelle à aller vers les gens pour les aider, les assister, les soutenir, les encourager, non pas à leur marteler des versets à coups de Bible, de ceci, de cela, mais de simplement s'engager envers les gens, envers ceux qui souffrent, pour les aider, ne pas avoir peur d'aller vers eux, ne pas avoir peur d'aller vers les gens qui sont souillés. Vous savez, il y avait un pasteur un jour qui sortait d'une grande église et il avait prêché un bon sermon sur la charité, tout ça. Et puis, lorsqu'il sort de son église, il y avait un pauvre, un itinérant, un mendiant qui était là et qui l'approche et qui dit: Pasteur, est-ce que je peux vous parler? Et le pasteur, sa première réaction a été de vouloir fuir. Et je parle de ça moi-même, je frémis parce que ça m'est déjà arrivé avec un frère, avec non pas un frère, mais une personne que je croise régulièrement sur la rue. J'ai demandé à Dieu de me soutenir, de me fortifier pour que je puisse aider cette personne. Mais moi aussi, j'ai vécu ça, je le vis encore. Mais ce pasteur, il sort de l'église, cet homme l'approche, et cet homme puait sans. C'était pas croyable. Et là, le pasteur, lui, dans sa prédication, qui croyait vraiment de tout esprit, se disant lui-même: Bon, il veut de l'argent, il sort son porte-monnaie. Comme je le dis, les chrétiens ont été bénis financièrement, comme ce n'est pas possible ces dernières années. Il ouvre son porte-monnaie, il sort de l'argent, il dit: Tiens, voilà, que le Seigneur te bénisse. Le mendiant regarde le pasteur dans les yeux, il dit: Non, non, pasteur, il dit, moi, j'ai pas besoin de votre argent. Il dit: C'est pas de votre argent que je veux. Et je veux simplement que vous me parliez de Jésus. Et là, si vous savez comment ce pasteur s'est senti mal, comment ce pasteur a réalisé sa condition propre à lui-même, le jugement qu'il avait porté sur cette personne. Et là, le pasteur s'est mis à pleurer. Et finalement, il s'est assis à côté de lui, il lui a parlé de Jésus en toute douceur, sans jugement, sans grande prédication, des paroles simples pour lui présenter Jésus. Et à la fin, ils se sont fait la collade. À l'époque, c'était encore permis, contrairement à maintenant. À l'époque, ils se sont fait la collade. Et malgré la senteur de cet homme, vous savez, lorsqu'il y a une sueur là, qui a plusieurs semaines là, qui est collée sur le corps, sur des bras en plus de saleté, là, le pasteur a dit, ça a été le meilleur parfum que j'ai jamais senti de ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu a alors touché son cœur et lui a fait réaliser ce qui se passait. C'est la même chose pour nous. Nous devons arrêter d'avoir peur et d'aller vers ces gens pour agir de façon concrète envers eux. Vous savez, la Bible dit que la foi sans les actes est une œuvre morte. Okay? Alors, on peut avoir la foi, dire « Oui, Dieu va bénir, Dieu va ceci, Dieu va cela », voir un frère en détresse et dire « Bon, je vais prier pour que Dieu t'envoie quelqu'un ». Mais Jésus n'a pas-t-il dit « Donnez-leur à manger vous-même ». Je comprends, il y en a qui vont me dire « Oui, mais il faut que dans la mesure du possible, nous soyons capables ». Mais il y a toujours moyen de faire un geste. Ma grand-mère a toujours dit, à l'époque de la crise, en 1929, tout ça, et plus tard, ils étaient très pauvres. Et il y avait toujours des tas de gens, des itinérants qui venaient manger chez elles. C'était quand même une grande famille en plus. Il y avait très peu de nourriture. Des itinérants qui venaient manger, des pasteurs, des missionnaires qui débarquaient sans avertir. Et elle disait, lorsqu'il y en a pour 3, il y en a pour 4, pour 5, pour 6, pour 7. Un autre pasteur, à l'époque, des vrais pasteurs, il recevait des gens, il était dur. Maintenant, un pasteur comme ça, il n'y a pas une église qui va être capable d'endurer un pasteur comme ça. Mais lorsque des missionnaires arrivaient chez lui, sans avertir, il disait à sa femme, « Rajoute quelques tasses d'eau dans la soupe, on a des invités. » Alors, vous comprenez un peu là où je veux en venir. C'est que peu importe nos revenus, peu importe nos ressources, peu importe qu'est-ce qu'on a, il y a toujours moyen d'aller aider les gens qui sont en détresse dans la rue, tout partout. De ne pas ignorer son voisin. Parfois, nos voisins ont des problèmes, mais comme l'amour du plus grand nombre se refroidit, parfois, on préfère ignorer et ne pas aller vers lui pour faire un geste, poser un geste qui va l'aider concrètement, qui va peut-être nous demandons un sacrifice à nous, mais Jésus s'est sacrifié pour nous. Et puis, c'est là où je veux en venir, c'est de garder le focus sur Dieu, parce que là, actuellement, il y a un élan d'entraide qui commence à se créer, de solidarité. C'est vraiment génial, vraiment génial. Et les chrétiens, c'est une opportunité pour nous de saisir cette opportunité, mais la question que je me pose, est-ce que cette opportunité-là, on va la saisir de façon à complètement changer notre manière d'être? Et lorsque la reprise des choses va se faire, que nous allons conserver ce nouveau mode de vie, ou bien allons-nous retourner à nos anciennes habitudes? Parce que oui, probablement qu'après le coronavirus, là actuellement les gens sont terrifiés, il y a des paniques partout dans le monde et je vois des choses qui ne devraient pas être et qui sont. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais après le coronavirus, c'est certain qu'il va y avoir une accalmie, un répit, qu'il va y avoir une reprise d'activité. Et c'est là que j'adresse un message à tous. C'est que même si le beau temps revient, comme on dit toujours après la pluie, le beau temps. Même si le beau temps revient, je vous invite à persévérer justement dans cette nouvelle voie que vous allez avoir adoptée en allant vers les gens et en délaissant un peu le principe des assemblées hermétiques entre petits clans religieux qui partagent, oui, la parole ensemble, qui prient ensemble, qui font de la louange ensemble. Mais ce n'est qu'en réalité, c'est qu'un rassemblement de bâtiments. La vraie église se situe dans les rues avec les gens, par petits groupes de deux, de trois. Okay? Car là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux, Dieu a dit. Et c'est ça la vraie Église. Et je me prêche à moi-même, là, lorsque je dis ça. Soyez assurés que je ne suis pas en train de dire « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». OK? Je me prêche à moi-même, moi aussi, là, lorsque je parle de ça. Et ça m'amène ça dans cette optique que il y a beaucoup de désinformation sur Internet actuellement qui est diffusée et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui entretiennent cette désinformation, qui, dans la panique, se mettent à croire à des choses qui ne sont pas vraies ou que même si elles étaient vraies, ce ne sont pas des choses qui sont dues pour être colportées sur Internet comme ça pour accentuer la pandémie émotive, psychologique, de la peur, tout ça. Mais c'est plutôt de prêcher Jésus, le vrai et le seul et unique Jésus, plutôt que de propager de fausses nouvelles et de dire parfois ce qu'on pense. C'est pas bon de toujours dire ce qu'on pense. C'est pas bon. Et pourquoi je dis garder les yeux focusés sur Jésus? C'est parce que je vois des choses qui sont en route actuellement. Et au Canada, c'est commencé. Et ailleurs dans le monde, il y a longtemps que ces choses existent. Mais un grand pays comme le Canada, de voir ces choses-là, c'est épeurant. Hier, je lisais dans le Journal de Montréal. Avant-hier, je vais commencer par avant-hier. Il y a un film qui est sorti sur Internet, sur Netflix, en plus un film québécois qui parle du survivalisme, survivre après une époque apocalyptique, exactement comme ce qu'on vit actuellement. Des gens qui se retrouvent sans rien, sans emploi, sans nourriture, sans protection, sans sécurité, qui vont vivre en forêt, des trucs comme ça, et qui sont armés pour se protéger, des autres. Ce film-là est sorti sur Netflix. Au mauvais moment. La personne, lorsqu'il a écrit ce film, n'avait pas prévu ça. Mais Dieu prophétise au travers des gens parfois qu'on pourrait ignorer si ce n'était pas que ces choses arrivent. Et malheureusement, le film est diffusé pareil sur Netflix actuellement. Et les gens, dans leur maison, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils sont devant leur télévision, la plupart devant Netflix régulièrement pour regarder ces films. Et de plus en plus de gens au Canada vont dans les magasins d'armes pour s'armer, acheter des munitions, pour se protéger au cas où, voilà. Aux États-Unis, bon, la connerie des armes existe depuis longtemps puisque ça fait partie d'un de leurs amendements, que tout le monde a le droit d'apporter une arme pour se protéger. Alors, rien de nouveau sous le soleil pour les États-Unis, mais il y a des pays qui commencent à avoir ce mode de pensée-là. Et cela risque de causer une anarchie, tout ça. Et lorsque je regarde ça, il est plus si cher. Comment dirais-je? C'est vraiment le temps, frères et sœurs en crise, de délaisser notre opinion personnelle sur ce qui se passe, sur le fait que les gouvernements peut-être nous mentent, nous disent pas toute la vérité, qu'on va empêcher les gens de prendre tel ou tel médicament pour les guérir du coronavirus pour telle raison. Bon, c'est pas important. Dieu nous protège, Dieu est là, Dieu nous garde, Dieu veille sur nous. C'est Dieu qui est Dieu. Dieu a fait cesser les combats au bout de la terre. Dieu peut abolir toute maladie qu'il a créée. Okay? Il suffit d'avoir la foi en lui, de prêcher son nom, sa puissance, et non pas de lancer des nouvelles comme ça sur Internet qui font que Dieu nous apparaît hors de contrôle. Lorsqu'on fait ces choses, on prêche un Dieu qui n'a pas le contrôle sur le monde. On prêche un Dieu qui se fout des gens. On prêche un Dieu qui ne veut pas agir. On prêche un Dieu qui est méchant, un Dieu qui est injuste, un Dieu qui est rempli de hargne, d'arrogance, de mépris envers sa créature, alors que c'est faux. C'est pas ça. Dieu nous aime. Dieu nous parle. Dieu veut nous dire. Dieu veut nous prêcher ce verset qu'on retrouve, entre autres, dans 2 Chroniques. 7:14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Mes amis, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que ça à comprendre et à prêcher comme message? C'est le message clé, c'est le message référence que je peux vous donner à prêcher aujourd'hui et à tous les jours et 365 fois par jour, toute l'année durant s'il faut. OK? La panique actuelle, sachez, frères et sœurs en Christ, que Dieu est au contrôle. Il a dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre et sur toutes les nations. Okay? Mais Dieu veut nous parler actuellement, veut nous faire savoir des choses. Et malheureusement, à la fin des temps, il y aura des signes manifestes qui prouvent que c'est la fin des temps. Et c'est à nous, chrétiens, justement, de le faire connaître aux gens et de prêcher ces choses, non pas pour créer une panique supplémentaire, mais pour que les yeux des gens puissent s'ouvrir réellement. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Est-ce qu'il n'y a pas des signes dans le ciel actuellement qui se passent à chaque mois, à chaque année? Oui. Sur la terre, il y aura de l'angoisse. Chez les nations ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux sera ébranlée. Tout est ébranlé actuellement. L'angoisse prend de plus en plus de place sur la terre. Et là, on parle ici de bruit de la mer et des flots. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre comme étant la mer, les vagues de l'eau de la mer et des flots. Allons et pensons, ça c'est le message que Dieu a mis sur mon cœur hier soir. Je pensais à Pierre, les disciples dans la barque, alors que la barque était, secouée par les vents impétueux de la mer, par les flots. Voilà justement la réponse à ça. Les disciples étaient en panique et Jésus, lui, il dormait. Et là, ils sont allés réveiller, ils ont dit, « Maître, maître, nous allons périr! » Et Jésus s'est levé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, « Gens de peu de foi! Gens de peu de foi! » Et il a levé la main et il a ordonné à la mer et au vent d'arrêter de se calmer. Et je repense aussi à lorsque les disciples étaient sur la mer et qu'ils ont vu Jésus marcher sur la mer, que Pierre a dit, « Mais c'est le maître! » Maître, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille te rejoindre et que je marche sur l'eau moi-même. Jésus a dit, allez, viens. Alors, Pierre est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Tant et aussi longtemps qu'il avait les yeux focussés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il a commencé à se laisser déconcentrer par les flots, le vent et tout ce qui l'environnait autour, la panique s'est envahie. L'a envahi et puis il a commencé à couler, à couler. Voilà le message de ce matin. Gardez le focus sur Jésus. Et garder le focus sur Jésus, c'est également de comprendre que si on obéit à la voix de l'Éternel, notre Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, qu'il nous a prescrit, allez dans Deutéronome 28 pour lire tout Deutéronome 28 au complet, vous allez voir. Alors Dieu nous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et toutes les bénédictions qui se répandront sur nous seront notre partage lorsqu'on obéira à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Allez lire ensuite ce qui suit à partir de Deutéronome 13 jusqu'à Deutéronome 61. Dans le cas des gens qui désobéissent, on parle clairement de malédiction, de catastrophe, de peste qui s'abat sur nous, de maladie incurable. Alors c'est ça qu'on doit comprendre dans tout ça, c'est ça qu'on doit prêcher de la bonne façon pour que les yeux des gens s'ouvrent. Et je ne saurais terminer sans le fait, sans ce passage de Josué 22. J'ai tellement aimé ce passage qui dit « Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le. » Dans tout votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme. Et servir l'Éternel, frères et sœurs, je m'étais dit que je n'irais pas plus loin que ça, mais servir l'Éternel, pour moi, c'est le psaume 58. C'est le psaume 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation. qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice et il désire l'approche de Dieu. En disant, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous vous livrez, vous vous traitez durement, vous traitez durement tous vos mercenaires. L'amour du prochain qu'on en met de côté. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Aïe, Jésus! Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et ça, c'est l'appel que Dieu fait aux églises actuellement. D'aller vers les gens. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison où il est malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il te dira « Me voici ». Si tu éloignes de toi, du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux. Lorsqu'on parle du joug ici, on parle de tout ce qu'on se met sur les épaules en termes de trucs que l'on essaie de faire dans les églises, dans les assemblées, autour de nous, qui ne sont pas nécessaires et à la gloire de Dieu. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies son âme, l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il te donnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et là, j'aime ce passage particulièrement. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ces ruines, frères et sœurs en Christ, ce sont nos assemblées du passé. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen, amen. Parole de l'Éternel, parole de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Et là-dessus, eh bien, je vous souhaite le bonjour à tous, que le Seigneur puisse vous bénir, vous protéger, vous garder. Et que même si la terre est bouleversée actuellement, même si les flots peuvent nous effrayer, les flots peuvent nous terrasser, nous angoisser, sachez que Jésus, lorsque vous allez dans Ésaïe 51, Jésus, c'est l'angoisse et la souffrance qui ont emporté Jésus. Et nous-mêmes, Jésus nous protège déjà. C'est donc pourquoi que quand nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, encore une fois on parle de flots, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous sommes sans crainte. Et frères et sœurs bien-aimés, que l'Éternel vous protège, vous garde, vous accorde sa grâce, sa protection, sa sécurité, mais aussi sa sagesse, son discernement au travers les événements, afin que vos yeux puissent voir clair, vos oreilles puissent entendre, votre conscience et votre intelligence puissent vraiment centrer toute son énergie sur sa parole, sur son message, sur ce que Dieu veut nous indiquer, nous prêcher aujourd'hui, sur ce que Dieu veut que vous annonciez au peuple. Alors, il y a un marchand qui passe à l'extérieur, je crois qu'il veut me dire que c'est la fin. Ne craignez pas, continuez de prêcher la parole de l'Évangile, mais sachez dire ce qui est bon et véritable. dans vos paroles et délaisser les choses inutiles. Mais concentrez-vous sur l'essentiel. On est en mode essentiel actuellement. Et notre essentiel à nous, c'est Jésus. Ce n'est pas de parler de politique, de parler de découverte médicale, de manipulation, de mensonges du gouvernement, d'état profond, d'oligarchie, de je ne sais quoi, de n'importe quel machin comme ça. C'est de vraiment prêcher Jésus, de prêcher la repentance, sa grâce, son retour imminent. Parce que se résorbe lorsque, après le coronavirus, il y a d'autres calamités qui vont venir sur le monde parce que le monde tire à sa fin. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Et un jour, si les gens ne s'entraînent pas comme des pompiers s'entraînent tous les jours afin de rester efficaces dans les moments d'alerte, eh bien, nous allons tous nous rendormir encore. Et lorsque le moment viendra, comme un voleur, comme l'éclair, eh bien, nous allons écoper. Nous allons écoper pour, alors là, vraiment subir la grande souffrance. Et moi, je ne souhaite ça à personne. Et il est clair qu'au travers, c'est pas les prochaines catastrophes qui vont arriver, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, frères et sœurs en Christ. Eh bien, celui qui est annoncé dans l'Évangile, lorsque l'apôtre Jean dit comme ça que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde, tout comme l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre avant que la terre fût, l'Esprit de l'Antéchrist, lui, est déjà dans le monde et agit déjà. Mais l'Antéchrist lui-même, qui est une entité, un être, de la même façon que Dieu, par son Esprit, est venu dans Jésus en tant qu'homme, eh bien, c'est le même principe qui va se passer avec l'Antéchrist. C'est l'Esprit de l'Antéchrist qui va entrer dans un homme particulier qui va arriver sur la scène mondiale avec des solutions à tous les problèmes, qui va ramener la paix sur terre, la sécurité, pendant un moment, une fausse paix, une fausse sécurité, une fausse abondance, une fausse prospérité, pour endormir les gens, et c'est là que le danger se trouve. C'est dans cette séduction qui est déjà commencée. Mais cette séduction va devenir telle que plusieurs vont voir cette personne comme tellement une bonne personne que bien des chrétiens vont se faire prendre. Et lorsque, à ce moment-là, cet être va se retourner pour montrer sa vraie personnalité et alors imposer la marque de la bête et transformer tout ce système mondial, monétaire que l'on connaît, eh bien, plusieurs chrétiens, s'ils ne demeurent vraiment pas fermes dans ce que je vous ai expliqué précédemment, certains chrétiens risquent de se retrouver déchirés face à ce choix de soit tomber dans les ténèbres temporaires de la pauvreté, de la mendiancité, de la souffrance, d'être chassés et traqués par l'État, ou alors de conserver leur statut avec leur argent à la banque, leurs avoirs, leur liquidité, tout ça, en ayant la marque de la bête, la puce implantée dans leur corps. Plusieurs vont tomber ainsi si les gens ne se réveillent pas maintenant pour justement changer cette approche et restez ferme dans cette nouvelle voie. Restez ferme dans cette façon de vivre notre relation avec Dieu pour, au final, lorsque Jésus va venir nous chercher, que nous soyons en mesure de monter avec lui et de passer l'éternité avec lui. Alors, j'ai fini. Encore une fois, j'ai extensionné. Ça me rappelle un peu mon pasteur, lorsque j'étais au Québec, et je dis ça avec amour, lorsque je dis ça, à chaque fois, il disait « Je termine là, j'ai fini là. » Il y avait toujours un 10, 15, 20 minutes supplémentaires, et ça, et c'est lorsque l'esprit agit, c'est comme ça, vous savez. Donc, c'est ce qui s'est passé encore ce matin. Alors, que le Seigneur vous garde, vous bénisse pour une xème fois, je le dis, que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux, votre discernement, votre sel, vous accorder beaucoup de sagesse, d'intelligence, tant sur le plan charnel que spirituel. Car les deux doivent travailler ensemble en ce moment. Les deux doivent travailler ensemble. Oui, l'Esprit doit nous conduire, mais ce qui nous entoure nous touche. Et ça, c'est la chair qui est touchée. Et nous devons avoir une intelligence intellectuelle, charnelle, et une sagesse également intellectuelle et charnelle qui va nous permettre de rester en équilibre avec la sagesse et l'intelligence spirituelle également. Et je vous invite à vraiment sonder vos Bibles. Lorsque vous avez quelque chose à dire sur Internet, eh bien, plutôt que de dire toutes sortes de conneries qui vous passent par la tête, c'est de plutôt aller chercher un message qui est vraiment d'aplomb, une parole à propos, comme la Bible nous dit, pour prêcher sur ça, sur Internet, parce qu'on a une belle plateforme incroyable, on a une opportunité incroyable. Et puis, je félicite les chrétiens qui actuellement gardent le contact entre eux, même s'ils ne sont pas rassemblés. Ils gardent le contact entre eux via toutes les plateformes Internet qui peuvent exister pour se rassembler, prier, partager ensemble. Et ça, c'est le commencement d'une nouvelle Église qui persistera, j'espère, à la fin de cet épisode de coronavirus que nous connaissons actuellement. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.